simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 7 septembre 2023, Najib Sidi Moussa présentait son nouveau livre « Le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue ». L'éducation nationale est en crise profonde, celle de l'éducation, qui interroge notre capacité à prendre soin, préserver et admirer les choses du monde, selon Hannah Arendt. Ce récit singulier et sensible, à rebours des plaidoyers lénifiants pour une école postmoderne ou des complaintes anxiogènes sur les territoires abandonnés de la République, invite les lecteurs à suivre les pérégrinations d'un professeur contractuel nommé dans un collège de la banlieue parisienne afin d'apprendre aux enfants des classes laborieuses l'histoire et la géographie, sans oublier l'enseignement moral et civique.
À toutes et à tous, bienvenue à la librairie Quilombo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une librairie qui a ouvert ses portes il y a déjà 21 ans, en 2002, avec pour objectif celui de faire connaître la pensée libertaire de France et d'ailleurs, classique et plus contemporaine, et de tisser des liens avec une pensée qu'on pourrait qualifier d'anti-industrielle ou de technocritique. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Najib Sidi Moussa. Bienvenue, c'est Quilombo. Tu es docteur en sciences politiques et enseignant au collège. Tu as publié notamment La fabrique du musulman, qui est paru chez Libertalia, ainsi qu'Algérie, une autre histoire de l'indépendance, aux presses universitaires de France, Dissidences algériennes chez Asymétrie et Histoire algérienne de la France également aux presses universitaires de France. Tu animes très régulièrement un blog, Sinejib, très riche, qui est consacré notamment aux questions anticoloniales, aux mouvements révolutionnaires. Demain paraît aux éditions L'Échappée le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue, que tu viens présenter ce soir. Alors, il s'agit d'un journal de bord qui débute en janvier 2022 et prend fin en juillet de la même année. Tu y inscris tes impressions sur l'institution scolaire, sur tes états d'âme, tes angoisses, mais également tes joies, qui ne sont pas négligeables non plus. Tu y traites des sujets désormais très présents dans l'espace médiatique, dans l'espace public, comme on dit, les discriminations, le fameux manque de moyens, une éducation et donc une république à deux vitesses, l'identité. Tu te qualifies d'ailleurs d'algéro-déprimé et de franco-déprimé, ce qui m'a fait beaucoup rire. Et tu cites Amin Malouf, qui, tout comme toi, est très hostile aux identités cadenassées, cloisonnées, fermées. D'autres sujets déambulent dans le livre un peu plus sur la pointe des pieds, comme celui de la technique, de la culture de masse, de la place de plus en plus importante du phénomène religieux à l'école et dans l'espace public, dans notre espace commun, et on en parlera un petit peu plus tard. Tout d'abord, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est venue, comment t'es venue l'idée d'écrire ce journal de bord et d'en faire par la suite un livre.
L'idée du livre, je pense que ça part alors d'une situation. Je vais essayer, je vais parler avec un copain tout à l'heure, de m'extraire, même si c'est un livre écrit à la première personne et j'ai pas non plus l'habitude de ça. C'est dans les titres que tu as évoqués, je crois que c'est le premier bouquin où je ne mets pas Algérie dans le titre. Mmh. Donc ça annonce une véritable rupture.
Mais la fabrique du musulman.
Alors c'est vrai, mais déjà, tu vois, ça renvoie à quelque chose. Bon, on pourra toujours me dire que je parle de banlieue et de précarité. L'idée du livre, en fait, c'est pas quelque chose qui était prémédité, tout d'abord. Je crois que c'est né véritablement. Alors je donne pas de nom, mais je regarde. C'est né de discussions avec des gens qui me connaissent bien, des amis de longue date. Avec mes proches aussi, face à cette expérience qui était un peu nouvelle pour moi, c'est-à-dire ce retour au collège, pour reprendre aussi le titre d'une BD. J'ai eu une expérience en collège, alors comme tout le monde, j'ai été collégien, hein, je pense à peu près comme tout le monde. J'ai aussi été pion, comme on dit, surveillant AED en collège également, dans un quartier populaire de Paris, il y a quelques années, quand j'étais étudiant. Et là, j'ai été affecté, alors pour différentes raisons, sur lesquelles on reviendra pas, j'ai été amené en tout cas à travailler en tant que contractuel, en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, dans des lieux que je ne nomme pas, et c'est volontaire aussi. Et donc c'est un retour, une confrontation au collège, en fait, donc avec des élèves, des jeunes, donc qui ont un âge particulier, d'accord, entre l'enfance et l'âge adulte. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent chez ces jeunes gens. Et dans un milieu, en fait, il y a aussi un ancrage géographique social qui est particulier. Encore une fois, c'est la banlieue parisienne. C'est ce qu'on appelle un peu pudiquement les quartiers populaires, sans stigmatiser. C'est des ghettos par plusieurs aspects, mais on pourra en discuter un peu plus tard. Il y a eu cette espèce de choc de la réalité, puisque à peu de choses près, je viens du même milieu ou des mêmes milieux que les enfants à qui j'ai donné cours. Ce sont pour la plupart des enfants d'ouvriers comme moi, ce sont pour la plupart des enfants de l'immigration extra-européenne, hein, pour pas dire autre chose, comme moi. Ce sont également des enfants qui baignent également dans la tradition musulmane, comme ça a été mon cas et celui de ma famille. Et pourtant, eh bien, il y avait des différences, mais qui touchent et qui s'expliquent par plein de choses. Là encore, on pourra en reparler plus tard, mais qui touchent à mon parcours, qui touchent à ma génération et à la leur. Sont des enfants de leur génération, ils ont leur code, leur façon de parler, de penser, de discuter, de se prendre la tête, de s'aimer, etc. Et puis, ils accumulent aussi des particularités propres à leur milieu, donc celui des quartiers de relégation en banlieue parisienne, avec tout ce que ça veut dire, la pauvreté, la discrimination, etc. etc. C'était pour moi une expérience qui auparavant, voilà, j'ai été enseignant précaire également à l'université pendant plusieurs années. C'est le métier à quoi je me destinais, mais je me suis heurté à l'impossibilité, là aussi on pourra y revenir si ça vous chante, à l'impossibilité d'être recruté, de trouver un emploi stable, en tout cas dans l'enseignement et dans la recherche. Donc, peu après le confinement, le Covid, c'était la première opportunité, et c'est la seule jusqu'à présent qui s'est offerte à moi. Donc d'enseigner dans le secondaire. J'ai surtout connu le collège, un petit peu le lycée l'année dernière, mais c'est surtout le collège. C'est le collège que je raconte d'ailleurs dans le livre, dans le journal. Et donc, pour reprendre le fil de ta question, c'est tout d'abord une surprise, un décalage, une expérience très forte, très riche en émotions, en fait. Je sais qu'il y a des enseignants dans la salle, ils pourront vous raconter. C'est en partant de ces discussions, de ces échanges, de ces anecdotes, qui parfois sont hilarantes, parfois sont déprimantes, véritablement. Moi, j'ai jamais eu l'envie de jeter un enfant dans la Seine, mais parfois, j'ai eu envie de lui jeter. Parfois. Mais c'est comme ça, encore une fois. C'est dû à l'âge, c'est dû aux conditions de travail. Là aussi, bon, je vais pas ressortir tout le discours syndical qui est vrai en grande partie, mais c'est pas véritablement ça que je voulais partager. Et parallèlement à ça, parce que, bon, il y a une grosse focale, là, c'est la rentrée scolaire, dans le secondaire. Et donc l'éducation nationale qui me fait vivre, qui m'a fait sortir non pas de la précarité, puisque je suis encore en CDD, mais comme beaucoup d'autres, mais au moins de galères, pour ne pas utiliser d'autres mots. Mais parallèlement à ça, c'est aussi 2022, une année où j'ai remis, pas un pied, mais un orteil à l'université. Je me suis retrouvé, donc parallèlement à ce que je faisais au collège, j'ai été vacataire dans deux universités de banlieue parisienne, encore une fois. Donc ça a donné lieu à d'autres échanges, d'autres interactions extrêmement enrichissantes. D'ailleurs, je me pose la question, je me demande si j'ai pas davantage appris que mes élèves. Bon, ce qui peut poser problème d'ailleurs, en y repensant. Mais j'ai beaucoup appris avec mes collégiens, j'ai beaucoup appris avec mes étudiants. Et 2022, c'était pour moi également, hein, c'est ce que j'évoque dans le livre en quatrième de couverture. C'est l'année où je m'approchais de mes 40 ans. Donc il y a aussi beaucoup de choses d'un point de vue personnel. Et aussi 2022, l'année où on commémorait, c'est l'année anniversaire hein, de l'indépendance de l'Algérie, et aussi une année, on n'oublie pas 2022, une année électorale. Donc qui s'est répercutée de différentes manières sur mes élèves et sur mes étudiants. Donc il y a un peu tout ça qui ressort, je crois, dans le texte, mais c'est véritablement, je crois qu'il y a eu l'envie de partager une expérience qui était très forte, qui surprenait, qui déstabilisait, qui déroutait des gens qui se faisaient une image du collège ou de l'école qu'ils ont connue à une époque. Je parle bien de l'école publique, hein, du service public. Moi, je n'ai connu que ça dans ma vie. J'ai travaillé que pour les institutions publiques et qui ne comprenaient pas que ça ait pu à ce point changer, se dégrader. C'est un portrait qu'on aurait pu faire pour l'hôpital ou pour d'autres services publics. Hein. Je veux dire, c'est exactement la même photographie. Même si, là, bon, je fais beaucoup d'incises, je ne crois pas ou je n'espère pas non plus participer d'un climat ambiant qui est celui du dénigrement des premiers intéressés, d'accord, des élèves d'abord, des personnels, enseignants, administratifs, etc., qui sont autour. Il y a une espèce d'ambiance extrêmement morose, sinistre qu'on essaie d'installer et qui pousse au désarroi et à l'abandon. Moi, j'aimerais plutôt que s'il y a des discussions avec des collègues ou avec d'autres, parce que la question de l'éducation, de la transmission, en fait, elle intéresse tout le monde. C'est une question éminemment politique, la preuve, hein, le président essaie de se l'accaparer et d'en faire une de ses priorités. Mais je pense que c'est une question éminemment politique qui doit intéresser tous ceux qui sont préoccupés par la transformation de la société et qui ne doivent pas laisser ça aux réactionnaires, précisément, et qu'on ne doit pas non plus laisser les discours pessimistes et défaitistes prendre le dessus. C'est facile à dire, comme je vous l'ai dit, hein, les conditions de travail, là où on est placé, ça peut être désespérant, mais l'objectif, je l'espère du moins, c'est d'essayer de transformer les choses, en tout cas de faire en sorte qu'elles ne se délabrent pas davantage.
Comment développe-t-on aujourd'hui, d'après toi, l'esprit critique d'un collégien issu de la classe travailleuse ? Quelle place pour le livre aujourd'hui à l'école ? Et qu'est-ce qu'être enseignant au collège, d'après toi ?
Alors, qu'est-ce qu'être enseignant au collège ? Tu vas avoir des témoignages, des réalités très différentes. Moi, j'ai enseigné pour l'essentiel, exclusivement en fait, dans ce qu'on appelle des établissements classés en REP, Réseau Éducation Prioritaire, ex-ZEP. D'accord, ce sont des établissements où, a priori, on donne davantage de moyens, c'est-à-dire que les classes au collège, par exemple, l'effectif ne doit pas dépasser 25, sauf que, là encore, je vais sortir un discours un peu syndicaliste, mais à 25, en réalité, c'est déjà trop, parce que il y a une ambiance, il y a la question de l'attention aussi qui s'est modifiée. Je sais que vous avez sorti un livre qui parle de ça, l'échappée, je suis là, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce que parmi ce choc en fait de la réalité, ce décalage, cette différence qu'on observe entre les générations, eh bien, c'est l'usage que font aujourd'hui les collégiens, les écoliers ou les lycéens avec le smartphone. Chose qui, alors je regarde l'âge vite fait, hein, qui est dans la salle. Les gens, en fait, on n'a pas connu ça pour la plupart d'entre nous. En fait, on n'a pas grandi avec. Et ça a un impact extrêmement délétère. Donc, en fait, une des premières batailles, effectivement, c'est la bataille de l'attention, de la concentration. C'est extrêmement pénible. Genre, c'est physique. Donc, c'est une bataille permanente, en fait, pour avoir une minute d'attention, deux minutes d'attention, de la concentration, le silence. encore une fois, je ne cherche pas à stigmatiser, mais à essayer de décrire des choses tout à fait justes. Alors, bon, peut-être que je ne fais pas partie des plus autoritaires des enseignants, j'ai sans doute cette faiblesse-là, mais c'est compliqué d'avoir le silence. Vous savez, en fait, il faut aussi se représenter ce que ça peut être, les établissements qui sont massifs, du bruit dans la salle, du bruit dans les couloirs, du bruit à l'extérieur aussi. Les collèges, ils sont pas en dehors de la ville, ils sont dans la cité, souvent. C'est dans la cité, il n'y a pas de rupture. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez impressionnant pour moi qui, à une époque, devais prendre mon vélo pour aller au collège, prendre le bus pour aller au lycée. Là, c'est intégré, en fait, dans le ghetto. Donc, là, c'est des choses dont on ne parle pas assez, mais qu'on ne peut pas se représenter si on ne le vit pas soi-même également. La lecture, c'est quelque chose qui a disparu. Je pose souvent la question au début pour connaître. Maintenant, je commence un peu à connaître l'environnement dans lequel je travaille. Moi, j'ai grandi dans une famille ouvrière où voilà, mon père achetait un journal, il achetait France Soir, il achetait l'équivalent du Parisien. Donc, il y a toujours eu un journal, il y a toujours eu un magazine à la maison. Ça a disparu, mais comme ça a disparu de plein de foyers, hein, de tout milieu confondu. Donc, c'est devenu abstrait, la lecture est devenue abstraite ou numérique. C'est-à-dire qu'ils sont davantage exposés, mais ça vous le savez aussi, aux vidéos courtes. La radio aussi est quasiment absente, ça, c'est un média que j'affectionne beaucoup, comme vous le savez. Mais l'écrit, c'est compliqué. La lecture, quand elle existe, parce que j'ai quand même, faut pas non plus exagérer la situation, j'ai quand même quelques élèves qui lisent, mais quand ils lisent, qu'est-ce qu'ils lisent ? Des mangas, exactement. Oui, bon, après, il faut partir de là aussi. Ils lisent des mangas. Moi, j'avais une élève extrêmement studieuse, extrêmement appliquée, etc., extrêmement polie. Elle était passionnée de mangas. Bon, elle m'a fait découvrir qu'on pouvait lire le contrat social à travers des mangas, par exemple. Bon, pourquoi pas ? Si c'est un moyen pour découvrir des auteurs des grotesques, pourquoi pas ? C'est compliqué de faire lire. Il y a des grosses difficultés de lecture au collège. La compréhension des textes. D'ailleurs, j'ai souvent fait des liens avec des controverses dans lesquelles j'ai pu être prise. Je pense que les adultes ne sont pas d'ailleurs exempts de cette difficulté-là, de la compréhension d'un texte simple, d'un énoncé simple. Je l'ai vu au collège, je l'ai vu au lycée. Donc j'ai dû parfois adapter par rapport au manuel que j'ai beaucoup utilisé, pardon, des élèves de seconde, voire de première, qui ne comprenaient pas un vocabulaire simple, même pas élaboré. Et donc j'ai passé beaucoup de temps, mais je pense que ça fait partie du métier, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer des notions, des mots, de vocabulaire. Ce qui pouvait vraiment me surprendre au début, voire me choquer. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi partir de ça. L'explication, essayer d'enrichir un vocabulaire, bon, c'est-à-dire, ça fait partie de l'activité du prof d'histoire géo aussi. Encore une fois, c'est une bataille. On ne peut pas partir perdant, on ne peut pas partir défaitiste, encore une fois. Et il faut aussi donner, il faut susciter un intérêt. Il faut susciter un intérêt, une curiosité. Alors, je suis pas non plus dans la démagogie, hein. Je ne vais pas non plus partir que de ce qui intéresse mes élèves. Autrement, je pense que je tournerai toujours autour du foot, des influenceurs à Dubaï, et etc. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut les amener ailleurs. Je me souviens, là aussi, ça reste entre nous. Je me souviens avoir été choqué lors de le premier établissement dans lequel j'étais affecté. Quand on est contractuel, quand on arrive après, hein, on arrive souvent après la rentrée. Donc on essaie de nous arranger un emploi du temps. On est éclaté dans différentes salles. On n'a pas sa salle. Et donc je partageais évidemment, je traversais différentes salles. Donc je passais par la salle d'une de mes collègues de musique. Et c'est vrai que j'avais été effaré de voir que, en cours de musique, elle apprenait le rap. C'était le rap qu'elle faisait. Alors je me suis dit, non mais quand même, ils n'écoutent que du rap du matin au soir. Elle devrait les amener, attiser leur curiosité, leur apprendre des choses différentes. Mais je pense que c'est peut-être le seul moyen qu'elle a trouvé à un moment donné pour les intéresser. Et peut-être, parce que je la juge absolument pas, peut-être pour les amener ailleurs. Mais j'en sais rien, j'étais pas en cours avec elle. Beaucoup de mes collègues, par exemple, sont plus jeunes que moi, pour la plupart, viennent d'autres milieux, voire d'autres régions, et arrivent avec des préjugés également, par rapport aux élèves, par rapport au public.
Lesquels, par exemple ?
Ben, par rapport au milieu social, parce qu'ils viennent, ils sont pas tous d'extraction ouvrière ou prolétarienne, ils sont pas tous issus de l'immigration extra-européenne, et donc voilà, parfois, on peut avoir peur de dire certaines choses, d'aborder certaines thématiques, ou alors c'est le contraire. Là aussi, moi j'ai... Bon, pour différentes raisons, mes élèves me disaient des choses, essayaient de partager des choses, voire de me tester sur certaines questions, et oui, je vois aussi qu'il y avait des attitudes qui peuvent être problématiques, ou en tout cas qui devraient amener un dialogue avec certains collègues. Aussi, hein, je suis pas dans une défense absolue de la corporation, hein, du corps professionnel, mais je suis pas non plus dans le dénigrement systématique, mais je crois qu'il y a ça. Parfois, il y a un malaise, il y a une gêne... ou une méconnaissance, tout simplement. Une méconnaissance, avec l'envie également de partir au plus vite possible, en fait, dès qu'on a fait ses points, et de repartir, ce qui peut être légitime d'ailleurs, hein, repartir dans sa région d'origine où la qualité de vie, comme on dit également, est meilleure, alors qu'ici, comme on le sait, tout est cher.
D'ailleurs, tu touchais du doigt un sujet important, c'est celui de la technologie, ouais, qui est présent dans le livre, mais en filigrane. Donc, à certains moments, tu évoques ce que tu disais, l'emprise croissante des smartphones, des élèves, l'emprise sur leur esprit critique. Je pense notamment à un passage, tu dis « Rares sont ceux à suivre le journal télévisé, à quoi ça sert, te dit-on, à me citer le titre d'un quotidien, Le Parisien, dans le meilleur des cas, personne ou presque n'a acheté une seule publication en kiosque, tout est sur Internet, la grande majorité, surtout en 6e ou en 5e, et en 5e, m'a cité Snapchat ou TikTok comme des sources fiables. » Alors, contrairement à d'autres auteurs qui nous sont chers ici à Quilombo, comme Renaud Garcia, ton rapport personnel à la technologie, tu en parles moins. Alors, tu te qualifies de technosceptique, il me semble, hein, deux ou trois reprises, mais sans aller plus avant. Comment as-tu vécu ce déferlement d'outils technologiques dans les salles de classe ? Quelle incidence il y a eu ? Tu n'en parles pas non plus et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Quelle incidence a eu sur ton travail les mises en place de dispositifs comme Pronote, par exemple ?
Bah, il faut expliquer, là aussi, quand on allait ramasser les fiches d'appel, ouais, donc c'est-à-dire c'était quelque chose de matérialisé, sur papier, etc. Et je trouve que c'était bien parce que ça permettait de faire le tour des salles, des classes, éventuellement s'il y a des problèmes, de garder un contact avec les élèves, avec les enseignants, etc. Moi, il y avait un côté sympa, je crois, d'aller ramasser les fiches d'appel. Aujourd'hui, tout est numérisé. Bon, vous le savez peut-être, pour ceux qui n'ont que des enfants ou qui sont enseignants, c'est-à-dire que... Alors, pour moi, c'était l'horreur absolue, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire l'appel sur son écran. Donc, déjà, il faut se connecter. C'est-à-dire qu'il faut une connexion Internet. Faut pas qu'il y ait de bugs. Faut cocher les retards, etc., les exclusions. En fait, si on suivait, je dis pas que j'ai suivi, hein, à la lettre, hein, parce que c'est quelque chose qui est chronophage, qui est horrible en réalité. Là, il faudrait se déplacer sans cesse entre les élèves qu'on doit avoir devant nous, ou en tout cas avec qui on doit être en interaction, lancer en activité, etc., faire lire, écrire, réfléchir et discuter. Et puis, en cas de pépin ou autre, revenir devant l'écran, cliquer, enfin, c'est quelque chose d'horrible. Mais je dirais que c'est pas ça le pire. Le pire, alors j'ai vu deux choses, encore une fois. J'ai vu le lycée, j'ai vu le collège. Au collège, dans les collèges où j'étais, le téléphone est interdit. L'usage du téléphone est interdit pour les élèves. L'établissement où j'étais l'année dernière, il y avait une tolérance, en fait. Je pense qu'ils n'arrivaient pas, ils pouvaient, et puis on ne peut plus imposer l'interdiction à des adolescents au smartphone au lycée. Et qu'est-ce que ça produisait ? En gros, zone de tolérance, c'est la cour, vous pouvez prendre des appels urgents importants. Et en fait, c'est pas la cour, c'est le couloir. Et puis en fait, c'est pas le couloir, c'est dans la salle. Ce qui fait qu'une des choses que j'ai mises en place aussi, c'est ramasser les téléphones à un moment donné. Oui. Parce que ça les suit.
C'est grignotage.
Ah, mais complètement. C'est dans la classe, en fait. Et donc, c'est dans la trousse. Alors, je parle pas de triche, parce que. Là, mais ça donne des choses complètement ridicules. J'ai des élèves qui. Voilà, aller chercher sur Google des réponses et ils me sortaient typiquement des phrases de Wikipédia. Bon, ils étaient incapables en fait d'écrire comme ça, de trouver les mots de vocabulaire, je savais bien. C'est la grande difficulté pour eux de se déconnecter en fait, de couper, de se dire on est à un moment donné dans un temps, dans un moment, dans un lieu où, et c'est ce que j'essaie de leur dire, mais bon, c'est la technologie est plus forte que mes conseils, hein, de petits profs. Profitons de ce moment pour se déconnecter pendant 50 minutes. Une heure, et essayons d'avoir un échange, essayons de faire groupe, essayons de faire classe. Ce qui est très compliqué là aussi, ce qui est extrêmement compliqué parce que précisément, la technologie les renvoie à chaque fois à des petits groupes d'affinités, à leurs petits centres d'intérêt, à leurs embrouilles aussi, les embrouilles de l'extérieur qui reviennent aussi, qui sont amplifiées à l'intérieur. Ça peut donner lieu à des bagarres, des chamailleries ou à des blagues au mieux, mais souvent ça vient accentuer justement des tensions de l'extérieur. Encore une fois, cette coupure, en fait, elle n'existe pas, ou elle n'existe plus. Et je pense que le smartphone fait en sorte que cette coupure entre la société, la ville, le quartier et l'établissement est impossible en réalité. Je répète, hein, difficulté de concentration, amoindrissement, à mon avis, de la fenêtre de l'imaginaire, de l'horizon intellectuel que même la télé pouvait offrir, et je pense qu'elle peut encore l'offrir sur le service public du moins, hein, précisément parce que avec la force des algorithmes, on est toujours dans des petites boucles, dans des modes, etc. Il y a vraiment, moi, je ne comprends pas d'ailleurs, j'en parlais en privé peut-être que ça ne ressort pas assez dans le livre. Pour moi, c'est un véritable problème sanitaire, en fait. C'est un problème qui devrait être politique. C'est-à-dire, encore une fois, tous ceux qui ont à cœur le bien-être des enfants et des générations montantes, tous ceux qui pensent que transmettre des choses, c'est important, notamment pour éventuellement servir à transformer la société, devraient prendre en compte, en fait, ce phénomène de destruction massive de la capacité cognitive des jeunes générations. Et encore une fois, c'est tout milieu confondu. On va être obligé de revenir en fait sur des choses parce que l'impact est délétère. D'ailleurs, c'est ce que je raconte à un moment donné. Enfin, voilà, c'était avant des vacances. Ah oui, aussi, j'ai appris qu'avant les vacances, on ne faisait pas cours. Voilà, c'est mes élèves qui me l'ont appris. On fait pas cours, on regarde des vidéos, on fait des jeux. Voilà, avant chaque vacances. Et donc, bon, à un moment donné, j'ai voulu faire cours. C'est pas possible. Hein, c'est eux qui décident. Hein. Et donc j'aurais projeté une vidéo d'un youtubeur. Voilà, il peut y en avoir aussi des personnes qui sont intéressantes ou qui essaient à leur manière de toucher un public qui, de toute façon, ne voit que des vidéos. C'est comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Et en fait, j'ai eu des réactions très contrastées. C'est-à-dire qu'au collège, mes élèves ont applaudi. J'ai eu des élèves, des collégiens, qui ont applaudi la vidéo, qui ont compris, qui ont mesuré l'impact. Au lycée, j'ai presque eu une émeute dans ma salle. C'est-à-dire que ça les a tellement choqués, mais parce qu'ils se voyaient, parce qu'ils voyaient exactement, ils comprenaient en fait à quel point ils ont été déstructurés au cours des dernières années, qu'ils en voulaient à la vidéo, qu'ils m'en voulaient presque en fait. Et j'ai essayé de calmer le jeu avant qu'ils partent, parce que c'était... il a failli y avoir des barricades dans les couloirs, quoi. Mais ça les a touchés en fait. C'était un électrochoc. Mais c'est un sujet dont on parle que récemment. Encore une fois, genre, c'est comme pour l'usage outrancier du numérique, enfin mettre des tablettes dans chaque main. On a eu aussi, je l'évoque un petit peu, la mascarade du distanciel pendant le confinement, parce que j'avais aussi connu un reconfinement à un moment donné lors de ma première année. Mais c'était incroyable. Je veux dire, on ne faisait pas cours. Ben, je me suis dit, c'est des choses comiques, parce qu'à un moment donné, on entendait, les élèves mettaient le micro, ils étaient au marché avec leurs parents, certains étaient dans leur lit. Alors d'autres ont réussi, et là, franchement, j'admire ça. Ils ont réussi à bordéliser des cours en distanciel. C'est-à-dire, ils s'invitaient dans des sessions, ils criaient, ils hurlaient, ils repartaient, enfin, avec des bruits d'animaux. Bon, là, ils arrivent à s'adapter, hein, mais beaucoup plus que moi. Bon, à un moment donné, genre, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens d'un point de vue pédagogique, en fait. Mais là aussi, on en revient. J'espère qu'on en reviendra. Et puis, il y a plein de manières hein, de concevoir l'enseignement, évidemment. Hein, mais c'est d'abord un rapport humain, en fait. C'est incarné, là. Renaud l'explique davantage. Moi, ne cherche pas à nous opposer Renaud et moi. Parce que c'est fait partie des intellectuels pour lesquels, et je l'ai déjà dit, je le redis publiquement, pour lesquels j'ai le plus de respect. Effectivement, c'est davantage effectivement au cœur de ce qu'il a écrit dans son journal, puisque lui aussi a écrit un très bon journal. Un peu moins dans le mien, bon, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité à laquelle on est confronté de fait, mais qui pose un véritable problème, en fait. Problème sanitaire, politique, pédagogique.
من العود وتخرجوا خرجوا من العود.
Et on continue avec la présentation du livre de Nejib Sidi Moussa, Le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue, présenté à la librairie Quilombo le 7 septembre 2023.
La question de l'identité et plus particulièrement des origines revient régulièrement. Je rappelle quand même que l'un des chapitres s'intitule « Monsieur, vous avez des airs algériens ». Les élèves t'interrogent régulièrement sur tes origines réelles ou supposées. Parfois, tu dis, et j'ai trouvé ça intéressant, pour parler de leurs propres origines. Je pense à un passage. Donc, on te demande, monsieur, vous êtes de quelle origine? Et là, tu noies le poisson. Tu dis, mais je n'en ai aucune, tu ne le savais pas. Et tu dis, si je ressors systématiquement la même version, c'est parce que les élèves reviennent toujours à la charge. En réalité, elles voulaient surtout parler de leurs origines. J'aimerais que tu nous parles de cette sorte d'effet miroir. Et surtout de la manière dont tu vis ces moments de un peu de raidissement identitaire. Alors le terme est un petit peu dramatique peut-être, mais
je pense vraiment qu'il faut dédramatiser. Encore une fois, je ne renie absolument pas ce que j'ai écrit. Au contraire, je pense que parfois j'étais trop gentil dans ce que j'ai pu faire ces dernières années. Mais cette expérience est extrêmement bénéfique pour moi. Enfin, cette expérience, elle est en cours. Hein. Et c'est pas qu'une expérience d'ailleurs. Je crois qu'il y avait une personne sur les réseaux sociaux qui pensait que je faisais une expérience sociologique. Mais c'est pas une expérience sociologique, c'est juste ma vie, en fait. C'est juste que c'est mon métier, en fait. C'est mon gagne-pain, et plus qu'un gagne-pain. En fait, effectivement, en rapport à toutes les obsessions identitaires, d'ailleurs, je suis coutume de dire que les polémiques qu'on a sur les réseaux sociaux, ça ressemble aux chamailleries des cours de récréation, en fait. C'est le même mode. C'est le même mode. On a des petits harceleurs, voilà, des gens qui vous courent après. Ah, mais il m'a dit ça, ouais, mais il rapporte ça. C'est la même chose. Alors, je demande à ceux qui sont obsédés par ces problématiques, s'ils sont tout à fait construits, s'ils ont grandi, s'ils sont sortis de cette phase de construction, précisément, hein, entre l'enfance et l'adulte, où oui, il y a une construction, un questionnement identitaire. Qui je suis? Quelle est ma place dans cette société? Ce qui est légitime, encore une fois. Est-ce que cette société m'accepte ou pas? Est-ce qu'elle accepte mes parents ou pas? Moi, je le comprends. C'est des questions aussi que je me suis posées, que plein d'autres aussi se sont posées ou se posent encore. Je crois que j'étais aussi fou ou aussi bête que certains de mes élèves également à leur âge. Donc, moi, j'oublie pas que j'étais un enfant. Première chose, j'oublie pas que j'étais un enfant et j'oublie pas que ce sont encore des jeunes. Et parfois, quand on parle de ces élèves, de ces milieux, on fait d'eux des adultes, en fait, des individus déjà finis, construits, alors qu'en réalité, ils sont en transition, comme on dit aujourd'hui, ils sont en phase de construction, ils grandissent, ils sont en pleine croissance à tout point de vue. Donc, il y a aussi on doit faire preuve de compréhension et d'écoute, en tout cas, à minima. Ça veut pas dire qu'on a tout accepté, qu'on a tout laissé passer, c'est pas possible, mais on doit à minima écouter. Je reviens à ta question, je noie pas le poisson. Contrairement à ce que je peux faire en classe, mais parce que ça m'amuse aussi. Hein. Moi, je crois savoir qui je suis, et je crois aussi savoir ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse plus également. Mais eux, c'est pas leur cas. Il y a une des choses qui est particulière également dans les rapports que je peux avoir avec les élèves, rapports positifs et négatifs également. Hein. C'est que c'est une profession qui est surtout féminine. Moi, je fais partie des rares hommes à être enseignant. Alors dans ma discipline, j'ai pas les statistiques en histoire-géographie, hein. Je sais pas s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose qui se joue, en fait, d'avoir un homme en face de soi. En plus, un homme qui a mon patronyme, je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup, ils en ont encore moins. Et comme je rappelle que j'ai enseigné essentiellement, dans le secondaire en tout cas, dans des quartiers de relégation, où en fait 90% ce sont des enfants d'origine maghrébine ou subsaharienne, il y a quelque chose. Il y a un intérêt, il y a une curiosité. Donc ils testent aussi. C'est pas malveillant. Hein. C'est plutôt bon enfant, précisément. C'est plutôt bienveillant. Et ils veulent, encore une fois, quand la plupart de mes élèves, en fait, quand elles posent la question très vite, elles parlent d'elles, de leur histoire familiale, de leur histoire migratoire. Moi, je trouve ça intéressant. Peut-être qu'elles sont un peu frustrées parce que moi, je ne leur partage pas complètement le récit. Bon, il y a un peu de réserve aussi de ma part, en tout cas dans la situation d'enseignement, dans la classe. Moi, j'aime bien jouer aussi avec les préjugés, j'aime bien les bousculer également là-dessus. Et j'aime bien leur faire comprendre aussi que s'ils sont attachés à certains traits de caractère, à certains traits de leur personnalité, notamment l'origine, et souvent c'est une seule qui les rappelle, ils oublient parfois qu'ils sont nés en France et qu'ils ont grandi ici, que je me prive pas de pas par chauvinisme, mais juste voilà, les ramener, mais ils sont dans cette réalité en fait. J'essaie de jouer avec ça, de dédramatiser vraiment et de leur faire comprendre en fait qu'ils grandissent. Donc ce qui est important à leur âge, comme ce qui a été très, bon, c'est très important moi de dire que j'étais algérien ou d'origine algérienne. Je me souviens, bon, je livre encore une anecdote, désolé je parle encore de moins, c'était en cours d'anglais, je crois que c'était en 6e, en fait il fallait faire une phrase pour se présenter. Donc il fallait donner son prénom et nationalité. Bah, j'étais très fier, bon ça me fait rire maintenant évidemment, hein, de dire « My name is Najib and I am Algerian ». Alors que notre copain Mohamed avait dit « I am French ». Et on s'est tous moqués de lui. Donc tous les petits Algériens sont moqués de lui. C'est ridicule. Mais ça veut dire que bah, y a un âge où c'est important de le dire. Mais comme, voilà, qui fait Ramadan, qui fait pas Ramadan. Bah, fallait tirer la langue, fallait faire sentir son haleine. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, on l'a fait, en fait. C'est un âge où bah, faut savoir quitter, en fait. Tu fais partie de quel groupe ? Bah, mes élèves, en fait, souvent, bah, ils veulent dire à quel groupe ils pensent appartenir. Et en fait, ils veulent savoir si je suis avec eux ou pas. Ils veulent savoir si je les aime bien. Ils savent que je les aime bien. Mais en fait, ils veulent surtout savoir, mais monsieur, quand même, vous êtes avec nous ou vous êtes avec eux ? Alors, ça peut prendre une tournure sympa, une tournure inquiétante également. Je crois que je livrerai cette anecdote, désolé de revenir encore dessus. Mais bon, sur le contenu des cours. Alors, j'ai été testé. Monsieur, vous croyez vraiment ce que vous dites ? Là, les cours que vous nous donnez, parce que nous, quand même, nous, on ne peut pas croire complètement à ça. Nous. Mais qui nous ? Qui nous ? Et là, c'est intéressant. On peut rentrer dans une discussion. Bon, ça ne les satisfait pas, forcément, hein, mais on discute. Voilà, parce que nous, monsieur, non, mais je vais vous dire, nous, on est musulmanes, c'est des filles qui sont venues. Et bon, les théories de l'évolution, tout ça, bon, on peut pas, en fait. Mais on peut discuter. Mais encore une fois, elle voulait savoir si j'y croyais. Mais en fait, elle voulait savoir si je faisais partie du groupe ou pas, si je faisais partie de la communauté ou pas. C'est aussi simple que ça. Ah, moi, je dis que j'étais un rationaliste et que je peux parfois ne pas être d'accord avec des textes, avec des anciens, mais je le dis toujours. Je le dis toujours, j'explique pourquoi, mais je n'impose pas mon point de vue. Bon, moi, c'est ma conception de et je ne suis pas la seule à la partager, d'enseignant, mais c'était le cas à la fac, c'est toujours le cas dans le secondaire. J'ai jamais cherché à endoctriner mes élèves. Non, je ne pense pas qu'on puisse les endoctriner à l'émancipation, je ne sais pas quoi. Je parle un peu de la fac, parce qu'on parle beaucoup du secondaire, mais c'est normal, c'est ce qui me prend le plus et ce qui nous réunit peut-être plus aujourd'hui. Par exemple, j'ai toujours essayé d'expliquer c'était quoi les théories un peu mainstream, dominantes, voilà, en sciences politiques, en sociologie, c'est quoi les théories critiques et comment moi je pouvais me positionner. À aucun moment je disais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut penser. Et c'est pas autrement. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui sont venus me remercier pour venir, mais en fait, vous êtes un des rares à le faire. Vous êtes un erreur à le faire parce que, bah justement, il y a un dogmatisme très fort chez les enseignants, chez certains enseignants, chez certains universitaires, où il y a une version des choses et il n'y en a pas deux. Bon, encore une fois, hein, vous voyez comment l'espace est le débat intellectuel. Bon, moi, je défends une conception du pluralisme. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout, c'est pas ça. Mais je veux que, bah, dans les têtes des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des petits garçons, des petites filles, qu'ils arrivent, à leur manière, à leur hauteur, à se faire une idée des thèses, des théories en circulation. Et si ensuite ils sont suffisamment forts pour se forger leur propre opinion, je pense que j'aurais réussi. Mais ça ne dépend pas que de moi. Il y a l'idéologie dominante, il y a les autres profs, il y a la famille, il y a le quartier, il y a les réseaux sociaux. Donc on n'est qu'un maillon, on n'est qu'un maillon dans une immense chaîne en fait.
Traite également une question très épineuse qui est la question religieuse. Tu viens d'en parler maintenant. Tu proclames, je te cite, ton anticléricalisme viscéral. Tu parles du voile de ta mère, de ton amour pour l'art sacré, les basiliques de Rome, tu dis.
Et les mosquées d'Istanbul,
absolument. Et tu effleures l'affaire des abayas qui s'incarne sous les traits d'une jeune fille, l'une de tes élèves. Expliquer qu'il s'agissait d'un habit culturel et non cultuel. Ce sujet, aujourd'hui l'abaya, hier le voile, est au cœur de l'actualité, déchire la gauche, dont une partie voit dans cette interdiction une énième mesure visant à stigmatiser les musulmans. Qu'as-tu observé à l'école concernant cette intrusion des signes ostentatoires religieux, toutes religions confondues.
Ouais. Bon, moi je pense qu'il faut dédramatiser, encore une fois. Faut partir de l'expérience, du réel, de... Je sais qu'il y a une attention médiatique. D'ailleurs, quand je terminais le manuscrit, l'affaire commençait ou recommençait. J'ai pas voulu faire de démagogie, de faire des développements là-dessus, mais comme j'ai été confronté, ça m'a touché. Genre, il se trouve qu'effectivement, en cours d'année, en fait, plusieurs élèves se sont, on va dire, métamorphosés, ont suivi une tendance, parce que je pense qu'il faut aussi le comprendre comme un phénomène de mode, comme aussi du prosélytisme, comme d'autres choses, mais il y a un phénomène de mode. Ça s'appelle la mode modeste, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est pas que la mode, c'est la mode modeste, c'est un label. C'est un label. Moi, je crois avoir été face à des gens qui sont des protagonistes de cette histoire, des gens qui ont investi dans ce business. C'est-à-dire que ça génère beaucoup d'argent également. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Ils ont des chiffres d'affaires d'un million d'euros, en fait. C'est du business. Il y a du business, il y a de la religion, il y a de la mode, il y a des questionnements aussi. Hein. Je veux dire, faut aussi comprendre ces personnes. Là, pour le coup, ce sont d'abord des jeunes femmes, mais il y a aussi des jeunes hommes. Moi, j'étais confronté à ça. J'ai vu une métamorphose. Alors moi, c'est pas à moi de dire qui rentre dans l'établissement. À la limite, c'est un peu facile. Et tant mieux. Je pense que ça sera assez compliqué. Sauf qu'à un moment donné, cet élève a été convoqué plusieurs fois par la direction. Voilà. Avant qu'on en parle beaucoup, comme à la fin de l'année ou comme maintenant. Moi, j'ai pas compris, en fait, pourquoi. Alors, j'en avais déduit que ça avait peut-être un vague rapport avec ça, mais j'avais pas compris tout de suite pourquoi elle se faisait convoquer. Puis une fois, elle est partie en larmes, s'est effondrée en larmes. Donc, je lui ai demandé de parler avec elle à la fin de l'heure pour comprendre. Et il se trouve que oui, c'était ça, c'était en raison de sa tenue. Et effectivement, elle m'a sorti l'argumentaire, mais que toutes celles... qu'elles connaissent, en fait, mais pas, encore une fois, c'est pas qu'une affaire de femmes, que c'était pas religieux, que c'était culturel. Alors bon, j'ai pas voulu ironiser, au contraire, j'étais dans une phase d'écoute. C'est quelque chose que j'ai vu apparaître, notamment après Ramadan, chez d'autres élèves, mais c'est pas un phénomène de masse non plus. Uh-huh. C'est pas un phénomène de masse. C'était quoi, sur un effectif de 30 élèves, il y en avait quoi, 2, 3, grand maximum. Donc il faut s'y ramener, moi je pense qu'on faut parler de tout, mais il faut dédramatiser, puis il faut essayer de comprendre un peu les enjeux. Moi je suis pas non plus du genre à hurler avec les loups, mais je suis pas non plus dans la concession. Si tu veux savoir, moi sur la question du voile, rétrospectivement, j'ai pas été confronté à la question de l'interdiction au moment où les lois, les circulaires ont été mises en place. Hein. J'étais trop jeune, j'enseignais pas encore dans le secondaire, mais rétrospectivement... Je suis plutôt en accord avec les féministes, lutte de classe et les militants anticléricaux ou laïcs, peu importe comment on les appelle, à gauche, qui étaient ni pour la loi, ni pour le foulard, ni pour le voile. Voilà. Alors ça peut paraître une solution un peu compliquée, de double refus, de nini. Bon, moi je me trouve souvent là-dedans. Mais je pense qu'une loi, une ultra-politisation d'une affaire extrêmement marginale n'est pas nécessaire, n'est pas utile. Je peux répéter la formule que j'utilise. Voilà, puis il y a mes soeurs qui sont là, moi j'aime ma mère et le voile c'est autre chose. Mais comme j'aime mes oncles, certaines de leurs idées c'est autre chose. Comme je peux aimer mes élèves, mais leur tenue, je parle d'être toujours en survette et autres, voilà. Alors attention, je suis pas non plus là à dire oui c'est la même chose, le survette, machin. Bon, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il faut être capable aussi de faire la part des choses. Et c'est aussi pourquoi, autant je suis un anticlérical, voire un anti-religieux convaincu, pas hargneux, mais tranquille. Je pense à plus je vieillis, plus je suis tranquille par rapport à ça. Mais en revanche, voilà, je pense que c'est important de faire la part des choses. Il y a un signe, il y a un vêtement, il y a un tissu qu'on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut. Mais en revanche, je ne m'associerai jamais à la détestation des personnes qui le portent. Et je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Jamais, jamais, au grand jamais, je confondrai cela. Pour des raisons évidentes, pas que personnelles, mais je dirais politiques et intellectuelles. Et je pense que, notamment dans les attaques de la droite, mais pas que, il n'y a pas que des attaques sur le signe, sur la religion, c'est les personnes aussi qu'on vise. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours... Vous voyez, je prends le temps, c'est pas parce que c'est un sujet chaud, il n'y a pas de sujet plus chaud qu'un autre, mais il faut installer les termes du débat, de la discussion, et après on peut parler de tout, il n'y a pas de problème. On peut parler de tout. On peut être d'accord ou pas, hein, mais on peut parler de tout. Il faut juste s'écouter.
Quelles ont été les réactions de tes collègues?
Non, je pense que c'est arrivé trop tardivement. C'est arrivé trop tardivement, donc j'ai pas eu d'échange particulier. Alors aussi, il faut, c'était aussi des élèves dans une classe extrêmement difficile. En fait, j'avais deux classes très difficiles en seconde. Je dis pas que ça explique, hein, c'est pas ça. Mais ça s'est pas posé ailleurs. Ça s'est pas posé partout, dans un lycée, et voilà. Qui... Bon, je vais peut-être te donner une autre anecdote que je raconte pas dans le livre. Donc voilà, moi j'ai débuté peu après l'assassinat de Samuel Paty, qui m'a beaucoup touché. Bon, comme d'autres, j'imagine. Mais c'est parce que j'allais, hein, voilà, j'allais commencer, même académie, etc. Il y a eu un an après, il y a eu le fameux hommage, vous vous en rappelez peut-être. Bon. Voilà, j'ai dit aux élèves, voilà, il y avait un hommage qui était organisé par l'établissement, je crois avec minute de silence. J'ai pas été associé parce que j'avais pas cours à ce moment-là. Bon. Et ensuite, il y avait comme directive du ministère, voilà, de faire lire des textes. Bon, moi, je suis parti de ce principe-là. Vous pouvez être d'accord ou pas. Je dis que la meilleure façon de rendre hommage, en fait, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. C'est de faire de l'histoire géo, comme il a essayé de le faire, etc. Et d'éventuellement, voilà, de discuter de ça, parce qu'ils en avaient une représentation, ils en avaient forcément entendu parler. Hein. Je crois que c'était avec une classe de 6e, voilà. J'ai eu cet échange avec une classe de 6e ou de 5e. Et donc là, en fait, j'ai eu des choses très différentes. Il y avait des personnes qui proposaient de faire une minute de silence, des élèves, spontanément. C'est pas moi qui l'ai proposé, ils l'ont proposé. Bon. Voilà, ils l'ont fait, ils l'ont respecté. Je crois qu'il y a une élève qui a demandé à pas la suivre. Voilà, à sortir. Bon, j'étais un peu surpris, mais moi, j'y vois pas une atteinte à la laïcité nécessitant signalement, qu'on appelle la police, je sais pas quoi. C'est pas ma tasse de thé, comme vous l'aurez compris. Mais elle a participé à la discussion après. Elle a participé à la discussion. Et c'est intéressant parce qu'elle a exprimé sa sensibilité, son point de vue. Alors que c'était une élève qui était vraiment mielleuse toute l'année, elle s'est raidie. Voilà, vous voyez, c'est des questions qui raidissent aussi à un moment donné. Et oui, mais monsieur, on peut rire de tout, mais pas de la religion. Bon, elle me l'a dit, moi je lui ai dit que c'était pas mon opinion. Bon, je sais pas si ça a servi à grand chose, pour être honnête, mais j'ai eu affaire à ça. Mais ça s'est très bien passé en fait. Peut-être, je sais pas quelle est votre appréciation, mais. Ça s'est globalement bien passé, parce qu'on a travaillé, on a lu, on a discuté, ils ont appris des choses. Bon. Je dis ça parce que j'en ai parlé après avec un collègue, qui m'a dit, mais c'est scandaleux, c'est une atteinte à la laïcité, mais il faut le signaler, machin. Ben, je fais, ben en fait, je vois pas vraiment où est le scandale, ou alors c'est que vraiment je suis laxiste, et que... Je dis, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, moi, j'ai rien fait. C'est une manière de répondre, parce que je pense qu'il allait vers sa retraite, et puis... Il faut dédramatiser, en fait. Il faut aussi se mettre à la hauteur des enfants, à la hauteur des élèves, de leur représentation, de ce qu'ils subissent, etc., de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils se représentent. Et ensuite, on peut amorcer un dialogue, on peut essayer d'avancer. Jusqu'où? Ça dépend de l'ambiance, ça dépend du climat, mais je pense qu'il faut faire cet effort. Parce que si on est constamment dans la fuite, je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais bon.
Les grands absents de ton journal de bord sont les parents. Pourquoi ce choix de ne pas en parler? Est-ce que c'était un choix délibéré? Est-ce que c'est ton éditeur qui l'a voulu ainsi?
Mon éditeur. C'est une directive.
Il se cache derrière la porte. Comment as-tu vécu et vécu les rencontres avec les parents?
Comme chacun sait, je suis quelqu'un qui écrit à la dictée. Non, c'est pas du tout une demande de l'éditeur ni de personne. C'est un constat, c'est une expérience. Voilà encore, bon, j'ai hâte d'avoir les retours. Je dis pas ça pour abréger notre échange, mais eh bien, c'est que tout simplement, les parents, tu les vois peu, c'est une réalité. Tu as affaire à une population laborieuse, précarisée, etc., qui travaille pas forcément dans le quartier, pour ceux qui travaillent en tout cas, et qui ont un rapport distant à l'institution scolaire, mais ce qui est dû aussi à leur propre parcours. Qui parlent pas forcément français ou bien le français. C'est des caractéristiques qui expliquent ça. Mais ce qui ne veut pas dire, attention, je veux pas... parce que, bon, sinon on va dire que je caricature, mais c'est... Moi, je parle de mon expérience, encore une fois, peut-être que d'autres ont un autre regard, un autre aperçu, et ce serait intéressant, d'ailleurs, de l'apporter. L'année que je décris, je me suis présenté à la réunion qui était... Là aussi, parce qu'il y avait des circonstances exceptionnelles. Je pense qu'il y a plusieurs choses aussi. Tu vois, en y réfléchissant, il y a eu l'effet confinement, l'effet distanciation sociale. Il y a tout ça aussi qui fait qu'à un moment donné, beaucoup de réunions ont été annulées, de fait. Voilà, les fameuses rencontres parents-prof de rentrée n'avaient pas lieu. Donc, dans cet établissement. Cette rencontre a eu lieu, je crois, au deuxième trimestre, si je ne dis pas de bêtises, à la remise des bulletins. C'était le prétexte, je crois, de mémoire. Je me suis présenté, même si, en fait, aucun parent, sauf une mère d'élève, a pris rendez-vous avec moi. En fait, la plupart des autres profs, notamment les profs principaux, mais pas que, profs de français, profs de maths, parce que c'est important le français, c'est important les maths, ils avaient des rendez-vous avec les parents. Bah, moi, il n'y avait qu'une seule mère d'élève. Une seule mère d'élève qui a pris rendez-vous avec moi. Et les autres, moi j'étais dans la salle, bon, ils m'ont évité en fait. Parce que l'histoire géo, pour eux, pour les parents, pas pour les élèves, peut-être pour les élèves aussi, c'est pas si important que ça. C'est pas si important que ça. Mais j'ai une mère d'élève qui est venue. Alors d'autres après qui sont venus, mais une mère d'élève qui est venue, bah, qui venait d'Algérie, comme par hasard, qui a quitté la guerre civile, qui avait à cœur de suivre l'éducation de son enfant, son garçon, le petit Mohamed, qui était un petit peu agité, mais elle a serré les vis. Donc c'est-à-dire qu'il y a des parents, en fait, et des parents, des mères, des pères de famille. Ben, qui suivent, hein, contrairement à un discours aussi qu'on peut ouais, entendre. Ouais. Quand ils le peuvent, en tout cas, ils le font. Ben, d'ailleurs, elle s'investissait, elle suivait les conseils de classe. C'est une des rares mères de famille que je voyais souvent. Autrement, ben, c'est compliqué. Je pense que d'autres, peut-être qui sont enseignants ici, te le diront. Les parents ne répondent pas quand on les appelle, quand on donne des rendez-vous. Cherche pas à excuser, cherche à comprendre. C'est un faut comprendre. Bon, il y a le rapport à l'éducation, il y a le rapport à l'institution, il y a les vies eux-mêmes qui subissent. Enfin, encore une fois, ça fait cliché, mais c'est des choses auxquelles j'ai été confronté. Tu vas avoir beaucoup d'enfants qui sont élevés par leur mère seuls, qui sont confrontés à beaucoup de difficultés matérielles, psychologiques, etc. Bah, elles peuvent pas être partout, les mamans aussi. Hein. Elles peuvent pas être partout. Donc, tu les vois moins, tout simplement. Donc, c'était pas une volonté de les effacer, hein, au contraire. Hein, mais c'est que, en réalité, j'ai eu très peu d'interactions avec les parents. Bon, il y en a d'autres qui sont plus drôles. J'ai eu un mot d'une mère d'élève l'année dernière parce que, bon, je suis très laxiste, mais quand on abuse, à un moment donné, je suis obligé un peu de resserrer les vis et j'ai mis un zéro à un élève. Je déteste faire ça, mais je l'ai fait parce qu'il se foutait un petit peu de moi, mais bon. J'ai eu un mot de la mère, bon, évidemment, pour enlever le zéro, hein, sinon autrement, elle aurait pas cherché à me contacter. Mais c'est vrai que l'année dernière, en y repensant au collège, parce que j'étais en lycée au collège, c'est la seule interaction que j'ai eue avec une mère de famille. Sans compter, évidemment, les mots d'excuse d'absence. Ça, bon, d'accord, ça, c'est normal. Quand on m'a envoyé sur ma boîte mail, donc. Autrement, au lycée, j'ai aucun parent. Aucun contact, ni de près, ni de loin, avec les parents. Pour le coup, je suis pas le seul à faire ce constat. C'est généralisé. Dans cet établissement, en tout cas, où j'étais.
Et la dernière question, qui est très, très ouverte, et qui est probablement la plus difficile à répondre. Si tu n'as pas de réponse, ce n'est pas grave. Est-ce que l'émancipation par le savoir est encore possible ?
C'est la question à 10 euros.
Voilà, question à 10 euros. Bah, moi, je pense que oui, plus que jamais, dans des conditions, là encore, et on ne parle pas que de l'école, ou tu veux parler que de l'école, parce qu'il ne faut pas non plus tout faire. Ouais, mais il ne faut pas, là aussi, il y a...
Mais tu peux étendre le champ, si tu le souhaites. Hein.
Non, parce que la bataille du savoir et de l'émancipation, en fait, elle doit tous nous concerner, qu'on soit à l'école ou pas, qu'on travaille ou pas, qu'on écrive ou pas, c'est quelque chose qui doit tous nous concerner, on a tous un rôle à jouer précisément. Mais à l'école, là aussi, il faut aussi arrêter de croire que tout va se jouer dans les établissements scolaires. Avec la dégradation du service public, je pense que ce sera de moins en moins vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Néanmoins, l'émancipation, c'est aussi une bataille politique. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va se jouer ailleurs. Moi, c'est des choses que j'ai pu écrire et que je dis et que je redirai. Mes élèves, collège, lycée, n'ont jamais croisé de militants syndicalistes, n'ont jamais croisé de militants politiques, n'ont quasiment jamais croisé de militants associatifs. C'est abstrait pour eux. Ils savent pas ce que c'est. Ils en ont une vague idée. Donc ça commence par là aussi. C'est aussi soutenir des initiatives, donner, de mettre entre les mains de quoi lire. Alors là aussi, bon, ces discussions qu'on a pu avoir, pas que des livres. Le livre aussi, maintenant, en tant qu'objet, il peut faire peur, il peut intimider. Ça peut être des brochures, ça peut être des textes plus courts. Je pense qu'il faut varier les supports. Mais comme, en fait, le vieux mouvement ouvrier l'a toujours fait, il y a toujours eu une littérature, il y a toujours eu des textes à destination du public ouvrier, bah, c'était pas que des bouquins de 300 pages ou de 200 pages. C'était des brochures, c'était des tracts, c'était des libelles, etc. Ben, il faut s'adapter. Encore une fois, c'est pas de la démagogie, c'est juste reprendre, renouer avec des vieilles pratiques, des vieilles habitudes, sachant qu'on a en face de nous des machines qui font que précisément l'attention, l'émancipation ne soient plus imaginables. Donc on doit aussi essayer, là c'est plus le prof qui va parler, essayer de semer des graines, essayer d'ouvrir le champ des possibles et précisément voilà, de leur dire qu'ils ne sont pas, ils sont pas condamnés à un destin qui précisément est anxiogène. Quand on pense justement aux défis que l'humanité, que nous tous en fait, catastrophe écologique, catastrophe capitaliste, etc., la violence et autres, ce qu'ils vivent et ce qu'ils subissent au quotidien, là où ils vivent exactement, il n'y a pas que la violence policière, il y a aussi d'autres formes de violence, domestiques et ailleurs, il faut aussi se battre contre le fatalisme. Donc voilà, chacun, je pense que chacun à notre place, on a un rôle à jouer.
Et d'ailleurs, tu abordes la question du langage, en fait. Tu critiques le jargon abscond des militants pour dire que l'émancipation, c'est aussi un langage clair.
Bien sûr. À un moment donné, encore une fois, je vise personne. Hein. Mais c'est vrai, vous lisez certains textes de la gauche, mais en fait, si vous n'avez pas un bac plus 8, si vous n'avez pas passé, par une fac de sociaux, ou si vous n'êtes pas agrégé de philo, vous ne comprenez pas. Donc là aussi, je pense que faut, le but du jeu, c'est pas que de parler à des petits cercles. Le camp d'en face, la réaction, en fait, ils parlent à tout le monde. Hein. Ils en donnent à tout le monde. Donc nous, pas forcément avec les mêmes méthodes et pas en jouant sur les mêmes affects et les mêmes ressorts, on doit parler, en fait, largement. On doit parler à notre camp, j'ai envie de dire, tout simplement.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'École Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog.